Amis, frères et sœurs, la grâce et la paix vous sont données ici et maintenant de la part de Dieu notre Père, de la part de Jésus le Christ, son Fils, notre Sauveur et notre Frère. Bienvenue à tous et à toutes présents ou absents, relayés par les réseaux sociaux ou par le biais d'Internet. Bienvenue à vous tous en ce jour de Noël et déjà un grand merci à David Cassan qui nous accompagne tout au long de ce culte. À Bethléem, c'est le temps de Noël, le temps de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus, c'est Dieu fait homme, disons-nous, mais qu'est-ce que cela veut dire au juste ? Jésus fut l'un d'entre nous au sens le plus fort du terme, pétri de chair et de sang, de larmes et de sueur, né d'une femme le plus naturellement du monde, avec dans sa famille des gens de toutes sortes, comme dans toutes les familles du monde. Des gens bien, des gens moins bien, des gens pas bien du tout, des hommes au comportement parfois étrange, des femmes totalement surprenantes. Son histoire à lui, Jésus, rejoint notre histoire qui est faite pour nous aussi de tous ceux et de toutes celles qui nous ont précédés, du même sang que nous, pétris de passion, de haine et d'amour. Son histoire à lui, Jésus, rencontre notre propre histoire et sa venue a bouleversé l'ordre des choses. Depuis que Jésus est venu, nous ne voyons plus Dieu pareil. À Noël, en Jésus, Dieu se rapproche de l'être humain et l'être humain est tout près de Dieu. Les distances sont abolies. Je vous invite à ouvrir ce culte en prenant le premier répond qui se situe dans le recueil, à l'entrée du recueil, le psautier français. Réjouissons-nous au Seigneur, je vous invite à vous lever. Béni sois-tu, Dieu de toutes les surprises, car tu viens là où nous ne t'attendons pas. Béni sois-tu, Dieu improviste, qui aujourd'hui s'approche de nous à Noël par la naissance d'un enfant. Béni sois-tu, Dieu de discrétion, qui manifeste ta présence aussi légèrement que le souffle ténu du vent. Béni sois-tu, Dieu de compassion, qui fréquente les lieux de souffrance sans te dérober à elle. Béni sois-tu, Dieu de pauvreté, qui, en cet enfant, commence sa vie dans une mangeoire. Béni sois-tu, Dieu d'humanité, qui prend corps et esprit d'homme pour donner au monde ton amour qui sauve. Oui, béni sois-tu, Dieu de toutes les surprises, tu es le Dieu de tous les retournements. Et je vous invite à poursuivre notre louange en prenant maintenant dans le cantique Louange et prière, le numéro 99, Louange et prière 99, et nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. prenez place. Mon frère, ma sœur, mon ami, en ce matin de Noël, semblable à d'autres matins, ternes et blafards, tu reconnaîtras l'irruption de l'espérance au cœur de l'inquiétude humaine. En cet espace de pauvreté, semblable à tant d'autres lieux de misère, tu reconnaîtras l'endroit de la présence de Dieu. En ces bergers semblables à tant d'autres exclus et en ces mages semblables à tant de savants d'aujourd'hui, tu reconnaîtras les premiers invités dans sa maison. En cet enfant de l'étable semblable à tant d'autres enfants enroulés dans leur lange, en cette maman qui chante son bonheur par des cantiques, tu reconnaîtras le bouleversant amour de Dieu. En cet enfant fragile, semblable à tant d'autres enfants qui reposent contre leur mère, tu reconnaîtras la tendresse de Dieu déposée dans un berceau pour l'humanité. Oui, en cet enfant, tu reconnaîtras et tu célébreras le temps de Noël. Montre-moi, Seigneur, la route. Je vous invite à la prière. Toi qui nous connais, Seigneur, et pour qui nous n'avons aucun secret, tu vois notre intérieur où personne n'accède. Tu vois nos larmes et nos crispations, la misère de notre volonté, la danse titubante de nos décisions, et aussi ce péché qui s'enroule autour de nos désirs. Il n'y a rien d'extraordinaire en nous, Seigneur, nous ne sommes que des gens ordinaires. En nous se côtoient idéal et mesquinerie, beauté et laideur, égoïsme et générosité. Simplement, notre fragilité reste inscrite dans l'argile qui nous façonne. Et toi, tu choisis de nous fréquenter. Tu viens définitivement t'établir chez nous. Et toi, Seigneur, connaissant tout de nous, tu viens te lier d'amour avec nous. Tu regardes seulement nos mains levées, en attente affolée de beauté et de pardon. Viens, Rédempteur des païens. recevoir la parole de pardon que Dieu nous adresse, je vous invite à vous lever. Allons jusqu'à Bethléem, contempler ce qui ne nous appartient pas, contempler ce qui est fragile. Allons jusqu'à Bethléem, reconnaître ce qui est beau, non seulement dans la nature, mais aussi dans les êtres qui accompagnent notre vie ou qui croisent notre route. Allons jusqu'à Bethléem, retrouver l'enfant qui est en nous par notre capacité à nous émerveiller, à nous émouvoir, à oublier que le monde est sordide et à croire l'espace d'un instant que les hommes comme les femmes sont capables du meilleur au lieu du pire. Allons jusqu'à Bethléem pour partager la tendresse, sans culpabiliser. Le temps de Noël est là, à portée de nos cœurs, le temps de nous laisser porter et de nous laisser aimer. Allons jusqu'à Bethléem retrouver la part de notre innocence et que personne ne mette de barrière à ce que sa main fait pour notre bonheur. Amen. D'un arbre séculaire. Nous croyons que Dieu est le Père de tous les hommes, de tous les peuples. Personne n'est exclu de son amour. Nous sommes tous créés à son image et à sa ressemblance. Ce qui fonde la dignité et l'égalité de tous les hommes, Dieu le Père a donné la terre à tous et pour tous. C'est ce qui fonde la solidarité. Les biens de la création doivent affluer dans les mains de tous. C'est le plus sûr chemin de la paix, car la paix est le fruit de la justice. Nous croyons que Jésus est le frère de tous les hommes, et spécialement des pauvres. C'est lui que nous voyons avoir faim, être nu, étranger, prisonnier ou malade. Nous croyons que celui qui juge, humilie ou calomnie, juge, humilie ou calomnie Jésus le Christ, car tout homme a le visage du Christ. Nous croyons que Jésus-Christ, par sa vie et ses paroles, nous dit qui est l'homme. Nous avons à faire nôtre les choix qu'il a faits, faire passer les personnes avant les richesses, la liberté avant la tranquillité, la vérité avant notre propre opinion. Le respect des autres avant l'efficacité, l'amour avant la loi. Jésus-Christ ressuscité nous donne l'Esprit de Dieu. Nous croyons que l'Esprit est esprit de liberté, esprit de tolérance, de justice et esprit de paix. Il accueille au lieu d'exclure, il respecte au lieu de condamner, il ouvre les portes et ne les ferme jamais. Et nous croyons que son espérance est plus forte que tous les désespoirs. Amen.
Thank you.
gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, d'éternité en éternité. Prenez place. Nous lirons aujourd'hui dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 1er, les versets 18 à 25. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit-Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la diffamer publiquement, résolut de la répudier secrètement. Il avait formé ce projet et voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Et elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta parole qui nous rejoint au plus profond de nos vies. Amen. Dans le recueil Louange et prière, nous prendrons maintenant le cantique numéro 100. Dont nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Devant ta crèche, tu me vois, je vous invite à vous lever.
Thank you.
Prenez place. Amis, frères et sœurs, les évangiles sont parsemés de ces petites phrases comme « Ne crains pas, crois seulement » ou « Va, ta foi t'a sauvé » ou encore « Le juste vivra par la foi ». Ce sont des phrases qui accompagnent des situations de vie, des guérisons, des demandes souvent courageuses de personnes qui ont rencontré Jésus, le Christ, et qui croient au-delà des apparences de la vie ordinaire. Et au fond, chacun de ces phrases pourrait s'adresser au héros de notre histoire, Joseph, dont nous venons d'entendre le récit. Joseph, le drôle de père. Enfin, une sorte de père. Parce que le moins que l'on puisse dire, c'est que son histoire ne ressemble pas vraiment à celle d'un père classique. Marie est accordée en mariage à Joseph, et l'affaire a été conclue par les deux familles. Dans la société juive de cette époque, les fiançailles avaient la même force légale que le mariage. C'est pourquoi nous trouvons dans le texte les deux termes, Marie fiancée à Joseph ou Joseph époux de Marie, ou encore un peu plus loin, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme. Le couple ne vit pas ensemble encore, mais voilà que Marie fut trouvée enceinte, avec dans le texte original cette tournure au passif qui indique que Marie n'est pas l'actrice de cet événement qui la dépasse. Alors on peut comprendre le dilemme dans lequel se trouve Joseph, car Joseph, dans le texte, nous est décrit comme un homme juste. Et dans l'Ancien Testament, la justice est l'attribut de Dieu par excellence. C'est aussi la première vertu du croyant qui se fie à Dieu. Et pour Joseph, être enraciné dans la foi, c'est vivre selon une attitude de droite, sans détour, qui allie à la fois l'obéissance et la fidélité. Joseph, enraciné dans sa foi juive, est fidèle à Dieu et obéit à la loi de Moïse. Joseph est un homme sans détour. Alors on imagine sans peine ses interrogations et même son tourment. Que faire dans un cas pareil? Et au fait, c'est quoi être juste? Eh bien, pour le moment, c'est un cauchemar. Il reste à Joseph l'obligation de quitter Marie et de faire le deuil de sa vie avec elle. Si Joseph respecte la loi légale, il dénonce Marie publiquement et il ne tient pas compte de son avenir. Ou alors, il la quitte secrètement et il préserve l'avenir de Marie. En pensant à quitter Marie secrètement, Joseph, sans le savoir, va s'enraciner dans une foi autrement plus profonde que celle liée au respect de la loi. Au milieu de son choix difficile, une aide extérieure va éclairer la décision à prendre. Et Joseph a un songe. Il rêve. Comme dans de nombreux récits bibliques du Premier Testament, la volonté de Dieu se transmet par un intermédiaire au cours de son sommeil. Et les étapes du songe sont scrupuleusement observées. Le messager, aussi appelé ange du Seigneur, s'adresse à Joseph en l'appelant par son nom et il insiste sur le fait de ne pas avoir peur. Joseph reçoit un message qui l'aide à comprendre sa situation. Au milieu de ses interrogations multiples, Joseph reçoit des réponses qui l'invitent à accueillir cet événement qu'il ne maîtrise pas. Et le messager lui dit qu'il peut garder la femme qui lui est promise. Il reçoit la confirmation que l'enfant à naître n'est pas de lui, mais de l'Esprit Saint. Il apprend que cet enfant deviendra son fils et il lui donnera un nom. Il lui apprendra à grandir. Et avec ce messager qui rassure Joseph, Joseph reçoit sa propre annonciation. La visite de l'ange rencontrant Marie, racontée dans l'évangile de Luc, est ici transposée sur Joseph, éclairée par le songe qu'il fait. Mais c'est quelque chose que l'on connaît déjà dans d'autres récits, quand par exemple les visiteurs rencontrent Abraham sous sa tente au livre de la Genèse et lui annoncent la future naissance d'Isaac. C'est aussi ce même procédé dans l'évangile de Luc pour Zacharie, qui apprend la future naissance de Jean-Baptiste. En tout cas, dans notre récit, Joseph est suffisamment éclairé pour obéir aux consignes du messager. Le sens de la grossesse de Marie lui ayant été révélé, alors Joseph prend Marie chez lui et il attend avec elle que l'enfant de la promesse naisse. Le messager insiste sur le nom de l'enfant. Et ce nom orientera son caractère et sa destinée, et ce n'est pas rien. Joseph a une grande responsabilité. Il donnera à l'enfant le nom de Jésus, ou Yeshua, qui veut dire « le Seigneur sauve ». Ce nom vient de Yehoshua, qui signifie « Yahvé est mon salut ». Ce qui fait de Jésus un Dieu sauveur. Et le rédacteur de l'Évangile précise, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Mais qu'est-ce que cela veut dire? De quel salut s'agit-il? Tout d'abord, on pense au salut politique à la manière d'un nouveau roi David. D'ailleurs, le messager appelle Joseph « fils de David ». Ce titre n'est appliqué qu'à Joseph et qu'à Jésus. Il les rattache à la lignée du roi David et leur accorde ainsi une légitimité royale. Fils de David, c'est la définition du Messie qui rejoint l'attente fondamentale du peuple d'Israël. Mais quand Matthieu écrit son évangile, il s'agit de tout autre chose. Après la chute de Jérusalem en 70, il ne s'agit plus d'un salut politique. Lorsque Matthieu précise « c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés », le salut est ici déplacé sur le plan spirituel. Et ce que Matthieu écrit, ce n'est pas un récit historique, mais c'est son témoignage sur ce qu'il a compris du ministère et de la vie de Jésus, de sa mort, de sa résurrection, et c'est cela qu'il veut faire comprendre et transmettre. Il voit dans ce que Jésus a dit et a fait l'accomplissement d'une promesse ancienne que Matthieu fait remonter au moment de la conception de Jésus. Matthieu fait glisser le sens de la prophétie d'Ésaïe sur la personne de Jésus, une prophétie qui s'adressait d'abord à la maison du roi Achaz et à la maison du roi David, à laquelle Joseph appartient. Et Matthieu utilise le verset du prophète Ésaïe 7:14 et il en fait une interprétation pour raconter et justifier la conception et la naissance mystérieuse de Jésus, alors qu'il y a un décalage de 700 ans entre le récit d'Ésaïe et celui de Matthieu. Oui, le récit de Matthieu est d'abord théologique avant d'être historique. Et lorsque Matthieu écrit aussi « Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ », avec le mot « origine », on peut y entendre le mot « Genèse ». Et nous pouvons alors deviner le parallèle que Matthieu tente de faire avec le récit originel de la création au début de la Bible. Avec une certaine poésie, il essaye de mettre par des mots ce qui ne peut pas se dire, ce qui ne peut pas se saisir de la naissance du Christ. Et pourtant, il faut dire qu'il y a bel et bien un accomplissement de la promesse. Le souffle de vie, force créatrice par excellence, est au cœur de cette naissance, comme au cœur de la création depuis les origines. La venue du Christ en ce commencement de la création nouvelle, c'est lui ce commencement de la création nouvelle. Son nom, Jésus, est porteur d'une mission, sauver son peuple de ses péchés. Jésus ne vient pas supprimer le péché, mais il permet à l'homme de ne pas s'y emprisonner. Il vient aussi proposer un nouveau regard sur la loi. Il vient inscrire la loi de Dieu dans le cœur de l'homme comme un chemin de libération, selon la promesse d'un autre prophète, Jérémie en l'occurrence. Et Joseph est un homme juste. Bien qu'enraciné dans sa foi, il ne cède pas à la rigidité de la loi de Moïse. Il écoute ce que Dieu lui dit à travers le messager, dans la nuit de son doute, de ses interrogations. Et Joseph grandit dans sa notion de justice. Il s'oriente vers la justesse. Sa prise de conscience, symbolisée par le récit du messager, le pousse à dire oui à ce projet insensé. Une confiance absolue, qui est l'autre nom de la foi, prend naissance autrement dans la vie de Joseph. C'est la foi en Dieu qui change l'existence de Joseph, comme elle peut changer la nôtre, en ce sens que lorsque nous nous interrogeons sur la vie, sur ce qui est juste, sur ce qui est bon dans la foi, nous le faisons par rapport à Dieu. Eh bien, Joseph ici dépasse son propre questionnement. Il dépasse ses hésitations, il surmonte ses peurs grâce à une présence venue d'ailleurs. Il accepte de rentrer dans une aventure dont il ne sait pas encore où cela le mènera. Mais il garde et protège Marie. Il garde et protège l'enfant. Et en n'appliquant pas la loi à la lettre, Joseph s'enracine dans la foi qui voit plus loin que la lettre, qui voit en fait à la manière de Dieu. Il permet à la vie de continuer, à la génération future de naître, et il permet surtout à l'histoire de l'alliance entre Dieu et les hommes de se poursuivre. Joseph, à la croisée des chemins, doit faire un choix. Il a une décision à prendre, et de cette décision, il y aura des conséquences. Et finalement, il n'y a pas de bon choix sans une prise en compte des plus faibles, sans un souci des autres, sans tenir compte des plus vulnérables. Et ici, les plus vulnérables, c'est l'enfant et sa mère. En accueillant Marie chez lui, Joseph, au fond, rejoint les autres femmes de la généalogie de Matthieu dans la première partie de ce premier chapitre. Tout de même, si on relit le début, le tout début du chapitre, la lignée du Christ vient de la transgression de Tamar, mais aussi de la prostitution de Rahab, de l'adultère de la femme d'Uri avec David, et encore la naissance du fils de Ruth la Moabite, l'étrangère, avec Boaz l'Israélite. Ces précisions dans la généalogie de Jésus ressemblent à un prélude pour parler de Marie, une femme enceinte de source inconnue. Et ces femmes, chacune enracinée dans la foi qui est la leur, à ce moment-là, deviennent des exemples de la manière dont Dieu poursuit son dessein malgré la transgression des normes morales ou sociales. D'ailleurs, cet enfant accueilli par Joseph plus tard, à qui il donnera le nom de Jésus, sera à l'origine d'une révolution complète dans la foi des hommes, révolution qu'il paiera de sa vie. Jésus inaugurera par son ministère et sa vie une nouvelle relation à Dieu dans laquelle Dieu se met au niveau des hommes. Et il ne parlera pas de Dieu comme d'une législation à appliquer à la lettre, mais comme d'un Père qui regarde sa créature au plus profond d'elle-même. Et Jésus dira aux hommes de regarder leur prochain avec ce même regard, afin que chacun soit enraciné dans la foi. Va, ta foi t'a sauvé. « Joseph, en accueillant Marie et l'enfant à naître, et élargit le champ de sa vie. Il approfondit aussi sa foi en développant l'esprit de la loi de Moïse. Et au fond, ce récit est là non seulement pour proclamer Jésus, fils de David, selon la généalogie, et Jésus, fils de Dieu, selon sa conception, mais pour enraciner dans sa propre foi celui qui reçoit ce texte. Et chacun est invité dès lors à ne plus regarder son prochain en fonction de ce qu'il fait ou à partir des apparences qu'il se donne ou de jeux qu'il joue, mais à partir de ce qu'il est fondamentalement. La foi des hommes sera une réponse libre à l'amour premier de Dieu. Joseph inaugure à son tour cette réponse libre à Dieu. Et c'est cela, la bonne nouvelle de Noël. Cette bonne nouvelle, c'est que nous découvrons pour nous-mêmes que Dieu vient à la rencontre des hommes, et donc à notre rencontre, de façon imprévisible, inattendue, inhabituelle, en empruntant parfois des chemins qui peuvent choquer les mœurs et bousculer les lois. Avec cette naissance hors norme, Dieu continue de ne pas ressembler à ce que nous prévoyons, à ce que nous imaginons de lui. Il est même différent de ce qu'on a appris de lui autrefois, ou de ce que l'on entend sur lui aujourd'hui. Il bouscule les règles établies, qu'elles soient naturelles, législatives, dogmatiques ou rituelles. Il ne se trouve pas forcément au rendez-vous que nous lui fixons, mais il nous invite à le rejoindre là où il nous fait signe, bien souvent dans des endroits insoupçonnés ou dans des situations fortuites. Alors, nous ressemblons à Joseph qui s'interroge. Et à notre tour, nous nous posons la question de savoir ce qu'il faut faire dans certains cas, et nous avons besoin de temps pour discerner, nous aussi, comment être juste. Comment passer à notre tour de la justice d'une situation à la justesse du cœur. Alors, ce sera notre enracinement dans la foi. Amen. dans le recueil Louanges et prières, je vous invite à prendre le numéro 107. Il est né le roi du monde. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3, mais je vais demander à David de nous le jouer peut-être une fois en entier pour qu'on se le mette dans l'oreille. Je vous invite à vous lever. Prenez place. Et je passe la parole à Juliette Bressonne.
Chers frères et sœurs, bonjour. Au nom du Conseil presbytéral, que ce soit votre première fois, vous soyez attachés à l'orateur du Louvre, merci pour votre présence ici même. Ou à distance devant votre écran. Merci encore d'être tous là et présents pour ce jour de Noël. Merci Agnès pour le culte d'aujourd'hui, accompagné par David Cassan à l'orgue. Eh bien, le programme à venir donne l'oratoire. Demain, nous nous retrouvons à 10h30 pour un nouveau culte. Et puis, la semaine prochaine, il y a la pause spirituelle le jeudi de 12h30 à 13h30. Et puis aussi un concert donné par le groupe La Toison d'Art vendredi 31 décembre à 17h. Et donc il vous est proposé un concert autour du thème de Noël à Saint-Pétersbourg. Voici pour les annonces. En qualité de trésorière, je me dois de vous remercier évidemment de tous vos dons chaleureux que nous avons donc à ce jour reçus Il n'est pas encore trop tard si vous avez l'intention de donner et de goûter à la joie de donner d'ici le 31 décembre, fin de l'exercice comptable, pour recevoir vers le mois de mars un reçu fiscal pour donc les dons que vous nous aurez remis. Merci de soutenir l'oratoire. Ici maintenant, c'est le temps de l'offrande. Alors pour ceux qui ne seraient pas tout à fait habitués, vous avez un panier qui vous est proposé pour remettre vos dons par carte bancaire sans contact, ou sinon dans les aumônières évidemment. Si vous voulez remettre un don nominatif aujourd'hui, c'est possible, soit en ligne évidemment, mais aussi à la librairie où se trouve un terminal de paiement. Et nous serons heureux de vous y accueillir. Je vous souhaite un très très bon Noël, enraciné dans la foi. Merci beaucoup.
Unissons-nous maintenant dans la liturgie de la Sainte Cène. Oui, vraiment, il est juste et bon de nous tourner vers ta grâce pour te rendre grâce, Dieu de la vie, en tout temps et en tout lieu, mais plus encore en ces jours-ci. Les bergers ont trouvé à Bethléem le Messie promis depuis des siècles. Les mages venus d'Orient se sont prosternés devant lui. Vraiment, tu as tenu tes promesses. Plus vaste que le ciel et la terre, elles se rassemblent toutes dans ce petit enfant couché dans la crèche. Avec les anges qui ont annoncé sa naissance, avec toutes les générations qui l'ont célébré au cours des temps, nous proclamons ta gloire en chantant ta grâce et ta fidélité. Je vous invite à prendre le spontané, le répond qui s'intitule « Pars-toi pour une fête », la strophe 1. Je vous invite à vous lever. Prenez place. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous. » Car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup pour la rémission des péchés. Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Prions ensemble. Éternel Dieu de la vie, nous te prions pour toutes les tragédies actuelles de notre monde. Nous te prions pour toutes les victimes de la pandémie. Et nous remettons à ton amour les peuples qui souffrent, les personnes sans cesse bafouées, emprisonnées ou humiliées. Nous te prions pour les familles actuellement éprouvées par le deuil de leurs proches. Nous te prions pour celles et ceux qui passent Noël en prison, à l'hôpital, en maison de retraite, loin de leur famille. Peut-être qu'une visite soit en ce jour une source de joie, d'espérance et de douceur. Donne la paix à notre monde et que cette paix rayonne entre nous, en nous. Et renouvelle notre enracinement dans la foi pour que les projets que nous formons jour après jour prennent corps selon ta volonté. Et accorde-nous de reconnaître en les hommes et les femmes que tu nous fais rencontrer des messagers de ta présence et de ton amour qui se fait tout proche. Par le pain et par le vin, signe de ton corps et de ton sang, par ta croix et ta résurrection, source de vie, par ton amour, tu es là. Tu demeures avec nous sur nos routes humaines. Nous te cherchons loin de nos vies. Mais pour te trouver, il faut juste que nous allions à toi parmi nos sœurs et nos frères en humanité. Tu demeures avec nous en ces temps de détresse, de chagrin et d'inquiétude. Nous te cherchons parfois loin de nos souffrances, mais pour te trouver, il faut juste que nous allions à toi, près de celles de ceux qui ont besoin de nous. Tu demeures avec nous en ces temps d'attente et d'espérance. Nous te cherchons loin de nos affections, mais pour te trouver, il faut juste que nous allions à toi, par la rencontre inattendue, le partage imprévu. Par le pain et par le vin, signe de ton corps et de ton sang, par ta croix et ta résurrection, source de vie, par ton amour, tu es là pour chacun d'entre nous. D'un même cœur, nous pouvons te dire cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus, ta voix nous convie. Nous chantons la deuxième strophe des réponses. Tout est prêt, dit le Seigneur. Voici le repas que nos mains ont préparé, mais où lui-même nous donne nourriture. Voici la table que nous avons dressée, mais que lui-même préside. Voici la joie que nous avons désirée, mais que lui-même nous donne. Voici le pain dont nous avons besoin et que lui-même distribue. Nous sommes tous invités. Voici le pain de vie. Celui qui mange de ce pain n'aura plus jamais faim. Voici la coupe de la nouvelle alliance. Celui qui met sa confiance en Jésus le Christ a la vie éternelle. Prenez et mangez. Prenez et buvez. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce repas que nous venons de prendre ensemble. Béni sois-tu, toi qui nous appelles à témoigner de notre espérance, mais aussi de notre foi, en travaillant à rendre plus fraternelle la cité des hommes. Béni sois-tu, Seigneur, car nous goûtons déjà la joie de l'unité donnée en ton Fils. Frères et sœurs, allez en paix dans la joie de votre Seigneur. Recevez l'exhortation et la bénédiction de la part du Seigneur. Dans les temps qui sont les nôtres, que la joie de Noël rayonne dans notre cœur. En ce jour de Noël, soyons heureux. Soyons heureux avec le pardon, car rien n'est aussi puissant pour renverser les situations et rétablir la paix au-delà des haines. Soyons heureux avec le partage, car toute misère peut être vaincue. Soyons heureux avec la justice, car sans elle, il n'y a pas d'humanité supportable. Soyons heureux avec la tendresse, c'est l'unique soleil pour traverser les jours et les nuits. Amis, frères et sœurs, en ce jour de Noël, soyez heureux dans la paix les uns avec les autres. En Christ, Dieu est venu réaliser ce qu'il a promis. Il a voulu choisir chacun d'entre nous pour aider à transmettre cette promesse. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors que Noël chante en vous tous son espérance et vous enracine dans la foi, que le Christ manifeste sa présence sur tous vos chemins et qu'aux heures de tristesse comme aux heures d'allégresse, la confiance demeure en vous comme la promesse que Dieu est avec vous. Allez, et que le monde voie votre espérance, mais aussi votre foi. Amen. Et nous chantons. Et je vous souhaite un très joyeux Noël.